Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 29 juin 2024, fin du semestre, c'est terminé. Hier, c'était le dernier jour de trading de ces 6 premiers mois de 2024. Alors, on peut dire que ça aurait été pas forcément une partie facile, alors, spectaculaire, mais pas facile. Les performances sont au rendez-vous parce que c'était quand même très très bon parce qu'on a parié durant tous ces 6 premiers mois de l'année sur la baisse des taux qui devrait arriver tout bientôt, si on en croit les derniers chiffres du PCE qui ont été publiés hier. Alors, on se rassure, on se réchauffe le cœur et on se dit que probablement c'est pour bientôt. La probabilité de voir une baisse des taux en 2024 est passée à 68% contre 61% vendredi matin. C'est du délire absolu, puisque tout le monde est super confiant sur le fait que ça va bien se passer. Pourtant, le seul petit bémol dans tout ça, c'est que l'économie semble quand même bien ralentir et qu'en même temps, l'instabilité politique n'a jamais été aussi forte qu'en cette fin de semestre. On vit d'ailleurs une fin de semestre assez perturbée, assez secouée pour toutes les raisons qu'on connaît et qu'on va aborder tout de suite. On commence donc immédiatement par l'Europe qui reste bien évidemment le centre du monde en ce moment, au niveau indécision, au niveau instabilité, alors pas l'Europe, la France en particulier. On va pas revenir sur le sujet de la France et de ce qui se passe, mais en deux mots, ce week-end, votation en France, législative, et dimanche soir, on saura si la gauche et l'extrême droite se retrouvent face à face pour un deuxième tour, ou si le côté Macron a réussi un miracle au niveau votation pour réussir à remonter à la surface, ce qui paraît quand même peu probable, mais pour l'instant ça reste très instable et le marché est très inquiet au niveau de qui sera au pouvoir, bien sûr, en fonction de leurs programmes économiques qui sont tous les deux, je parle de la gauche et de l'extrême droite, qui sont tous les deux très douteux et probablement insuffisants pour une économie classique comme celle qui régit les marchés financiers. Donc on se pose énormément de questions et on a très peur. D'ailleurs, la France est une des pires performances de la semaine parce qu'on a très peur, on le verra au fur et à mesure. Donc ça, c'est un des gros sujets de la semaine qui a émaillé la semaine tout au long. Bien sûr que chaque parti est en train d'essayer de caresser les investisseurs dans le sens du poil. On a encore entendu certains gros investisseurs qui laissent supposer que de toute manière, les marchés financiers vont tenir, peu importe le nouveau gouvernement, vont le tenir en laisse très très courte pour que ça se passe relativement bien. On sait que le surendettement guette le pays, on sait que finalement on a toujours très très peur de prêter à la France pour l'instant parce qu'on ne sait pas si ces nouvelles méthodes politiques vont fonctionner. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a un énorme doute et comme à chaque fois qu'il y a un énorme doute en finance, on n'aime pas. Donc la pire performance de la semaine, c'est la France et on n'a pas du tout aimé cette semaine parce qu'on a toujours peur. Et malheureusement, même en fonction du résultat de dimanche soir, je ne suis pas sûr qu'on trouve une certaine sérénité à partir de lundi matin. On trouvera peut-être une sérénité la semaine d'après, la semaine du 8 juillet, quand on saura vraiment qui sera à Matignon après Gabriel Attal. Toujours sur le côté européen et français, on notera quand même qu'il y a eu un énorme profit warning assez important pour être signalé, c'est Airbus qui s'est fait littéralement massacrer après un profit warning parce qu'ils n'arrivent plus à livrer leurs avions parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la chaîne de production, donc la chaîne qui leur envoie des moteurs et des cockpits. Alors ils n'arrivent pas à livrer tous les avions qu'ils devaient livrer et comme ils sont payés seulement quand le client reçoit son avion, eh bien forcément il y a un impact, ils auront probablement beaucoup moins de revenus sur la fin de l'année et ça c'était pas prévu. Donc profit warning d'Airbus qui a également pesé bien sûr sur les marchés et sur le CAC 40 pour le côté aéronautique. On notera aussi qu'en France, on a noté que l'inflation avait drastiquement baissé aux surprises, on est à plus qu'à 2,1% d'inflation. Alors ça c'est assez spectaculaire contre 2,3% le mois dernier, donc ça continue de baisser. Bon, il est vrai que sans vouloir faire le complotiste, il aurait été étonnant que le gouvernement français sorte un chiffre supérieur alors qu'ils sont comme ça au niveau des élections. Mais l'un dans l'autre, l'inflation continue de baisser en France. Il paraît. La BCE a également annoncé cette semaine qu'il s'attendait à un ralentissement de l'inflation. Donc le target de l'inflation à 12 mois est passé de 2,9% à 2,8%. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'ils voient que cette inflation continue de descendre. On l'a vu également sur le PCE, on va y revenir dans quelques secondes. Cette inflation est prévue de diminuer durant les 12 prochains mois. Alors ça, on en reparlera, mais c'est marrant parce que finalement, on a cette target de 2% sur l'inflation et on a l'impression que finalement, les 2% sont tellement proches, mais en même temps tellement loin parce que c'est 0,1% de baisse pour les 12 prochains mois. ça risque d'être encore long si on continue de gamberger autour de ce target de 2% à coût de 0,1% par année. Autrement, cette semaine, on a eu beaucoup de banquiers centraux américains qui ont parlé. Si on doit faire un résumé assez simple, ils en savent rien, ils en savent pas plus que vous et moi. Pour l'instant, ils veulent plus d'informations, plus de détails sur l'état de l'économie et plus de régularité dans certaines bonnes nouvelles, dans certaines nouvelles rassurances qui vont dans le sens d'une baisse des taux. Hein, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'économie américaine est en ralentissement. Elle se calme, l'emploi se calme, la croissance américaine ralentit. On l'a vu sur le PIB cette semaine qui était beauf, qui continue de montrer une certaine faiblesse, on va dire. Donc tout ça sont des bonnes nouvelles parce que le consommateur se calme, le consommateur ralentit, le consommateur change de mode de comportement et tout ça sont des bonnes nouvelles qui vont dans un espoir de baisse des taux. Donc ça rassure les banquiers centraux, mais ils aimeraient voir ça sur le plus long terme, c'est-à-dire pas juste sur un mois, parce qu'on a eu effectivement un ralentissement de l'inflation sur un mois, mais je vous rappelle que quand on a fait les calculs, le pétrole était à 73$, aujourd'hui il est à 82$, donc ça risque d'être pas tout à fait pareil le mois suivant. Donc les banquiers centraux veulent voir un ralentissement continu, que le fait que l'économie ralentisse de manière continue et pas que ce soit juste un one-time event, un événement d'une seule fois. Et donc, du coup, ils attendent de voir. Le problème, c'est que l'économie ralentit. Et à un moment donné, l'économie va ralentir peut-être un peu trop pour se retrouver dans une zone qui on va nous faire parler de récession. Et à ce moment-là, la Banque centrale devra réagir pour éviter la récession, alors que l'inflation sera peut-être pas encore au target qu'on voulait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller ces prochains temps. On notera aussi qu'à l'intérieur des banquiers centraux qui ont parlé, il y en a quand même qui ont laissé entendre que, vu la situation actuelle, il était encore un peu trop tôt pour exclure définitivement une éventuelle hausse des taux. Donc ça, on n'a pas du tout prévu la chose, hein, mais il est vrai qu'on voit quand même que quand vous écoutez l'ensemble des banquiers centraux américains qui ont parlé cette semaine, eh bien, tout peut arriver. Les taux peuvent baisser, les taux peuvent ne rien faire, où les taux peuvent monter. Donc en gros, c'est un peu comme la météo. Au niveau du consommateur, je vous le disais, on a vu cette semaine que le consommateur, il est en train de ralentir, il est en train de changer son comportement, il achète différemment, il achète moins, il se concentre plus sur ce qu'il a vraiment besoin. Bref, le consommateur semble gentiment pris un tout petit peu à la gorge. Résultat, il y a quand même des effets qui commencent à se faire sentir. On a d'ailleurs vu cette semaine sur les baromètres du consommateur en France, en Allemagne, que ça ralentissait quand même pas mal. Donc il y a quand même un truc qui est en train de se passer. On a vu aux États-Unis les chiffres catastrophiques, enfin les déclarations catastrophiques de Nike. Le titre perdait 20% vendredi encore parce que ça consomme différemment, moins. C'est pas qu'ils achètent plus de baskets ou plus de matériel de sport, mais moins. Donc forcément, il y a des impacts. Donc on voit quand même qu'il y a un changement de ce côté-là. Ce qui va aussi en direction d'une baisse des taux, bien sûr, mais ce qui va aussi dans la direction d'une récession, parce qu'on sait que le consommateur, c'est le moteur de la croissance. Et s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de croissance et on va avoir des problèmes. On notera en Suisse aussi que le COF est gentiment reparti à la hausse. Hein, il est sorti à 102,7 contre 102,2 en mai. Donc ce baromètre de l'économie suisse repart gentiment à la hausse. L'économie suisse redémarre gentiment, mais sûrement, comme on fait toujours en Suisse, hein, aussi rapidement que nécessaire, ou un truc comme ça, je sais plus comment il disait l'autre, j'ai oublié. Mais bref, en gros, voilà, on voit que ça repart gentiment, que ça c'était plutôt positif, même si ça n'a pas eu un gros impact sur les marchés durant la semaine. Petit détour rapide sur la tech aux USA, on s'est beaucoup posé de questions cette semaine. Est-ce que Nvidia est trop cher? Est-ce que l'intelligence artificielle est au bout de son run? Est-ce qu'il faut prendre les profits? Alors on a vu, on l'a constaté quand même qu'il y a eu des prises de profits sur Nvidia, il y a eu des mauvais chiffres, entre guillemets, sur Micron, pas mauvais, mais simplement dans le sens où la société a fait des prévisions qui sont en dessous des attentes dithyrambiques du marché, et c'est peut-être là un des problèmes qu'il faudra pointer dessus ces prochains temps. On va rentrer à partir de dans 15 jours vraiment dans la saison de publication des chiffres trimestriels, et les attentes sont tellement élevées. Alors les attentes sont élevées, mais surtout les prévisions futures sont encore plus élevées. Et donc si les sociétés commencent à dire « Ouais, mais attendez, nous, ça va pas être aussi simple les 3-4 prochains mois », il va y avoir des déceptions et là, ça pourra quand même peser sur tout ce secteur qui a tiré à la hausse. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur Micron. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça pour toutes les boîtes, mais on sentait quand même, en cette fin de semestre, après un titre comme Nvidia qui a cartonné durant la première partie de l'année, les gens commençaient un peu à prendre les profits. On verra sur les graphiques tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal de pressions vendeuses qui se mettent en place régulièrement sur ce secteur-là. Et les gens font de la rotation de secteur et vont se poser un petit peu plus sur le côté software. On a vu beaucoup d'intérêt du côté de Salesforce, énorme retour à la hausse, aussi sur les cybersecurity stocks qui repartaient également à la hausse. Donc on voit qu'il y a une certaine rotation de secteur, on rachète ceux qui se sont pris des tannées ces derniers mois, et puis on dégage un petit peu l'intelligence artificielle en disant on a beaucoup gagné, on va finir le semestre comme ça, on verra comment ça se passe sur les résultats et on en reparlera probablement début septembre parce que là quand même entre deux, il y a des vacances. PIB, PCE aux États-Unis, c'était les gros chiffres de la semaine, donc PIB, beauf, voilà, il n'y a pas d'autre terme, beauf, ça continue à tenir, mais c'est plutôt, ouais, c'est vraiment beauf, il n'y a pas d'autre mot, des chiffres pas extraordinaires, mais ça tient pour l'instant, on va pas non plus parler de récession de ce côté-là, donc ça va, mais c'est pas la folie, et puis le PCE était à 2,6%, donc dans les attentes, parfaitement en ligne, on voit qu'après des mois de stagnation, voire de légère hausse sur l'inflation, on revient plutôt dans un truc qui va pointer vers une baisse, et comme je vous le disais en ouverture, eh bien les attentes de baisse des taux sont passées du coup à 68% de probabilité de voir baisser les taux cette année. La grande question, c'est qu'on sait pas quand c'est que ce sera. Est-ce que les gens vont attendre les publications des chiffres de l'emploi de la semaine prochaine, enfin de cette semaine qui vient, pour dire l'emploi ralentit beaucoup, donc ils vont baisser les taux peut-être en juillet ou en septembre. On va essayer de cibler la date à partir de là. Et puis, on termine bien sûr par le débat présidentiel américain jeudi soir. C'était une catastrophe, il n'y a pas d'autre terme. Alors, une catastrophe d'abord parce que le débat était nul, pour moi, premièrement, qu'on n'a eu aucune information sur les programmes ou sur les intentions futures de l'un ou l'autre des candidats. Le clair vainqueur de ce débat, c'est Trump, mais pas parce qu'il est surdoué, pas parce que son programme économique est extraordinaire, simplement parce que Joe Biden est juste totalement incompétent pour imaginer qu'il puisse rester là encore 4 ans. Quand on a vu son comportement durant le débat, on se disait, mais est-ce qu'il va même arriver jusqu'au mois de novembre ? Donc du coup, il y a eu un espèce de désespoir total dans le camp démocrate. On n'hésite pas à parler de catastrophe, clairement, de désastre. Les mots sont forts et on laisse entendre le fait que M. Biden pourrait même être retiré des candidats potentiels à la présidence. Biden a reparlé hier lors d'un meeting. C'est étonnant parce qu'en fait, quand vous voyez son comportement durant le mandat et quand vous voyez le speech qu'il fait hier devant ses électeurs, devant les gens de son parti, c'est pas la même personne. Durant le débat, le gars, il était figé, il bégayait, et là, durant son discours devant les gens, il est très très ferme, très très fort, il a des mouvements de tête très clairs, il montre très bien qu'il est en forme, qu'il va bien, que oui, il est âgé, qu'il a passé 80 ans, mais que par contre, il va très bien, il est très dynamique. C'est pas les mêmes comportements. On a vraiment l'impression que le mélange chimique qu'ils lui ont injecté jeudi soir et pas le même qu'il avait hier après-midi quand il a fait son discours devant ses fans. Donc voilà, on termine semaine assez complète avec énormément de choses, hein. C'est pas terminé, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées, pas de grandes choses énormes, mais on voit quand même qu'on est dans une espèce de chenille, comme on dit en français, où c'est vraiment pas clair, et on se pose énormément de questions. Néanmoins, les marchés sont pas loin du plus haut de tous les temps, même si l'Europe continue à avoir de la peine, mais on voit qu'on se dirige vers quelque chose de relativement problématique au niveau instabilité politique générale, en Europe ou aux États-Unis. Donc entre maintenant et le mois de novembre, entre les Américains et ce qui est en train de se passer en France, ça promet pas mal d'événements assez spectaculaires, et les marchés n'aiment pas quand on ne sait pas. On est beaucoup trop haut ou très haut sur la techno, en tout cas l'intelligence artificielle, on peut s'attendre à quelques rotations de secteur, et là on va attaquer les périodes de résultats qui vont arriver rapidement ces prochains jours, et donc là aussi on verra si on est allé peut-être un peu trop vite en besogne, et si nos attentes sont un peu trop hautes, c'est en tous les cas ce que laissaient supposer les premiers indices ces derniers temps. Les performances de la semaine, alors vous le voyez, le Nikkei s'en sort relativement mieux que tout le monde, plus 2,4%, 2,49%, le Dow Jones des transports prenait 2%, ce qui est assez intéressant finalement, c'est que vous voyez que on a des rotations de secteur qui font que finalement, il y a des indices qui sous-performaient, qui surperforment et vice-versa. On voit cette semaine, bon alors aux États-Unis c'est vraiment une petite semaine puisqu'on a le S&P 500 qui est en baisse de 0,08 sur la semaine. Notez le pétrole en hausse de 0,9%, mais surtout il est pas loin des 80, au-dessus des $80 de nouveau. Beaucoup de tensions toujours du côté Moyen-Orient qui aide. Le DAX termine en hausse. Le SMI est en baisse de 0,22% sur la semaine. Ça reflète toute la passion qu'il y a eu dans l'indice cette semaine. Et puis alors, comme je vous le disais avant, le CAC 40 au fond du bac, moins 2% ou presque sur la semaine, moins pire que le Bitcoin avec moins 5,37%, mais ça reste encore quelque chose de spécifique. Et puis le Philadelphia Semiconductor Index qui baisse de 1,24% avec ces histoires de rotation de secteur et de dégagement sur certains big names du secteur des semi-conducteurs, entre autres Micron, entre autres Nvidia, bien sûr. Et puis alors la Chine qui perd 1%, la Chine perd 1% aujourd'hui parce que, enfin cette semaine, parce que encore une fois, elle pagaye avec ses droits de douane qui pourraient l'impacter et cette guerre des tarifs douaniers qui pourraient peser dans les mois à venir entre l'Europe et la Chine. Et puis je vous laisse imaginer ce qui pourrait éventuellement se passer si Trump est élu au mois de novembre. Au niveau du SMI, alors là aussi, pas grand-chose. Quand vous regardez les variations, eh bien, vous avez Richemont qui prend 0,9%, ABB 0,26%, Novartis qui prend 2,28%, qui nous sauve un peu la mise, avec Nestlé qui perd 2%, donc ça compense. Lonza en hausse de 2,7%. Et puis, grosso modo, UBS qui s'est relativement bien récupéré durant la semaine, mais qui perd quand même pas loin de 2%. Et puis, notre éternel ami Le Bon Roche qui perd 1,27%. Donc, petite semaine, en haut, en bas, vraiment rien de très directionnel sur le SMI. Le SMI que voilà, vous voyez le graphique, donc notre fameuse tendance haussière. Et si on devait résumer cette semaine, eh bien, on résumera la chose en disant qu'on s'est baladé autour de la zone des 12 000. On termine en dessous des 12 000 à 11 993. La suite des événements sera déterminée par notre capacité à repasser au-dessus et à envisager d'aller attaquer les 12 300, mais ça, il faudra vraiment trouver le catalyseur. Mais à mon sens, comme c'est parti pour l'instant avec les doutes qu'on a pour le moment et les publications trimestrielles qui arrivent, je ne serais pas surpris qu'on aille chercher la moyenne mobile des 50 jours aujourd'hui autour des 11 805 sur le SMI. Aux États-Unis, vous voyez que on se bagarre. Là, c'est pas autour des 12 000 comme sur la Suisse, mais le S&P 500 est en train de tourner autour des 5 450 plus ou moins. On termine la semaine à 5 470. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que ces candlesticks qui sont assez grands. Avec donc relativement pas mal de volatilité, on va dire, mais qu'à chaque fois on termine plutôt dans le rouge, plutôt en vente, mais on essaye de partir et ça revient. Donc il y a quand même, ça montre, et on le verra aussi sur les semi-conducteurs, qu'en fait ça essaye de partir mais ça veut pas et on revient dessus. Et donc il y a quand même pas mal de vendeurs. On peut dire qu'il y a quand même pas mal d'ajustements de position aux États-Unis, ce qui justifie peut-être cette espèce de stagnation où vous avez les spéculateurs qui essayent de tirer le marché à la hausse et les vendeurs qui réduisent leur position, qui viennent taper dessus de toute façon à la fin. Le semi-conducteur index, c'est pareil, hein. Vous voyez, on a eu la semaine dernière cette correction avec l'histoire de Nvidia, bien sûr. Et puis là, depuis 5 jours, eh bien, on est flatliner, il ne passe pas grand-chose. Pourtant, intraday, là aussi, vous voyez qu'on a pas mal de volatilité. Là encore, vous voyez qu'en fin de semaine, on essaye de repartir à la hausse pour continuer cette configuration haussière. Et puis, bam, on les remet à la caisse. Et on ramène tout ça sur les bas du range de la semaine. Donc là aussi, on voit qu'il y a pas mal d'ajustements. On va mettre ça sur le compte pour l'instant. Déjà justement de position de fin de mois. Alors comme c'est un peu le sujet du moment, regardez, c'est le graphique de Nvidia à très court terme. Hein, donc là, on est depuis le mois d'avril. Le graphique de Nvidia, vous voyez, si vous prenez cette partie-là et que vous faites un copier-coller avec le graphique qu'on vient de voir d'avant, le SOX, eh bien, c'est exactement la même configuration. On a eu cette correction. Là, on se pose des questions. On essaye de remonter, mais à chaque fois, il y a toujours des vendeurs, ce qui fait que pour l'instant, on traite dans un range. On verra si c'était juste les ajustements de position de fin de mois et qu'à partir de lundi, on retrouve un comportement à peu près normal. Mais un des titres qui aura fait l'actualité cette semaine, c'est Micron. Donc Micron a publié des chiffres qui étaient bons, avec des prévisions qui étaient bonnes, mais des prévisions en dessous des attentes de Wall Street. Donc ce qui est assez intéressant, et c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, aujourd'hui, on attend tellement de l'avenir de l'intelligence artificielle que les analystes ont des targets extrêmement élevés, et j'en ai parlé dans un des Morning Bulls cette semaine. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on attend tellement de ces boîtes-là qu'on risque d'être déçu parce que les sociétés, elles, sont dans la réalité. Ils ont les mains dans le cambouis et ils voient que c'est pas aussi simple que ça. Donc, ils ont des prévisions positives, voire très positives. Mais Wall Street attend beaucoup plus de ces sociétés Et Mike Rohn nous a montré cette semaine que la déception a été grande lors de la publication des résultats. Et on est revenu sur les 131, donc cette zone qui avait toutes les peines du monde à décoller. On revient sur cette zone-là. On a la moyenne mobile qui, pour l'instant, fait office de support. Mais ce retournement de situation a pesé sur tout le secteur des semi-conducteurs et a surtout démontré, à mon sens, qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est délicate parce que ce secteur-là va très bien. Il est clair que ça va très bien. Mais par contre, peut-être que Wall Street est en train d'aller un petit peu trop en avant par rapport à ses attentes. Et comme on arrive dans la saison des résultats maintenant, il sera intéressant de voir comment ça va se comporter ces prochains jours. Et là, d'ailleurs, ça se voit clairement. Donc, on sort des semi-conducteurs et des boîtes d'intelligence artificielle pour aller se positionner sur les softwares. Parce que là, vous voyez Salesforce, après ses mauvais résultats de l'autre jour, qui a extrêmement bien récupéré depuis quelques temps. C'est 20% de rebond quand même, entre les deux. Là, on a vu la semaine dernière. Mais l'un dans l'autre, on revient à des niveaux assez spectaculaires et on voit clairement que les gens se repositionnent sur d'autres valeurs qui ont déjà cotisé ou on a déjà anticipé une forme de ralentissement. Le CAC 40, vous voyez, alors là, c'est incroyable parce que alors, pour ceux qui sont férus d'analyse technique, le CAC 40, il nous fait un exercice absolument spectaculaire. Donc, on a eu quand même le fameux Head and Shoulder de l'époque, tac, qui vient casser la ligne de coup, mais avec des mêmes proportions, c'est incroyable. Vous voyez que les deux épaules sont similaires, on vient casser la ligne de coup. On revient au target qui est implémenté par l'amplitude de la tête, exactement là, on rebondit, et on clôture la semaine, après avoir tapé la moyenne mobile des 200 jours trois fois de suite, et on revient exactement sur les 7450, plus ou moins, qui sont ce gros support qui ne doit absolument pas lâcher. Donc, en fonction des votations, des élections de ce week-end, eh bien, on va avoir soit un rebond en direction des 7009, soit une cassure qui peut nous emmener très très bas. Il y a vraiment de la place pour descendre sur le CAC 40. On dirait que le premier stop est à 7300. Mais alors après, c'est retour sur les 6800 sur le CAC 40. Vous voyez à peu près à ce niveau-là qu'on retrouve ici. Donc franchement, mais pour l'instant c'est impressionnant parce que du point de vue technique c'est vraiment juste un cas d'école. Très rapidement, je voudrais vous montrer trois graphiques. Le premier, c'est le pétrole. Alors on en a déjà parlé moult fois. On finit la semaine là, on a 81,54 sur le baril. Alors vous voyez qu'il y a toujours relativement de force et donc tous les chiffres qu'on nous sort aujourd'hui au niveau de l'inflation sont basés sur cette période-là. Donc clairement, une période où le pétrole fait comme ça. Donc ça veut dire que les chiffres qu'on va avoir à la fin du mois de juillet, c'est sur cette période-là. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence sur certains prix de l'inflation. Pour l'instant, le baril est relativement en forme. La raison, les tensions au Middle East. On voit ce qui se passe entre Israël et le Liban et les risques d'embrasement qui sont toujours présents dans la tête des investisseurs. Pour moi, j'ai toujours ce grand triangle. Donc mon scénario sur le baril est toujours le même. On peut aller chercher un petit peu plus haut, revenir encore une fois pour aller tester les bas. Et puis après, on va rentrer dans une zone qui se situera probablement entre septembre et octobre, où on va avoir une cassure dans un sens ou dans l'autre, et ça pourrait être assez spectaculaire. La direction sera à déterminer le moment venu. Le cacao. Alors regardez le cacao sur la semaine. Bam! 30% de correction. Voilà, donc c'est un des trucs qu'on n'a jamais vu ça cette année. Même la dernière fois, je crois que c'était moins violent, donc c'est méga violent. Grosse correction sur le cacao. Alors, les raisons, il y a toujours les problèmes avec la Côte d'Ivoire et puis la gestion de la production. Bref, c'est très, très complexe comme truc à jouer. Mais pour dire, vous voyez comme quoi c'est vraiment méga volatile. On était quand même, il y a 10 jours, on était à pas loin de 11 500 et on termine la semaine là à 8 200. Donc, c'est méga violent. Et on voit surtout que le secteur des commodities, en général, est devenu très, très violent. Très, très violent et très volatile. Regardez aussi celui-là. Alors, ça, on en a parlé beaucoup une époque. C'est le lumber, donc c'est le bois. Et vous voyez que depuis quelques temps, on s'est pété la gueule depuis le mois de mars et ça fait que de baisser. Et là, on pinaille à 460, alors qu'il y a quelques... Je sais plus comment ça fait, on en parlait beaucoup il y a quelques temps, vous voyez. On était quand même monté à des niveaux absolument stratosphériques, à 1400, donc on a perdu quand même 70-80% sur le lumber. Alors, le lumber, il a une raison assez simple pour la baisse ces derniers temps, c'est que finalement, les constructions, les nouvelles constructions aux États-Unis, à cause de la hausse des taux récentes, enfin du niveau des taux d'intérêt, sont en baisse, donc moins de construction, moins de consommation de bois. Résultat, vous avez un lumber qui s'est fait massacrer depuis quelques temps. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on arrive dans une période où on a une volatilité sur les commodities. C'est incroyable. Et c'est surtout pas forcément rassurant pour la suite des événements, parce qu'en fonction de ce que les comos vont nous faire, eh bien, il va falloir corriger le tir sur les marchés financiers. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment inquiétant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, bon, bah, en l'occurrence, le bois, on n'en mange pas, mais le cacao, on en mange, le blé aussi. Et on a vu ces derniers temps pas mal de mouvements de ce côté-ci. Donc, à garder un œil dessus quand même, il faudra bien se surveiller. Voilà, on en arrive au chapitre des vedettes de la semaine en Suisse. Alors, il s'est passé pas grand-chose, hein. Vous avez vu un SMI qui baisse 0,22% sur la semaine. À l'intérieur, les plus gros mouvements, c'est 2% de baisse ou 2% de hausse, donc rien de très spectaculaire. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé très rapidement, parce que franchement, c'est pas la plus grosse semaine qu'on ait eue sur le marché suisse, puisqu'on hésite toujours autour de nos 12 000 points. Donc on commence immédiatement avec le bon rush. Une fois n'est pas coutume. Alors le bon rush, je m'excuse, je quitte la caméra des yeux pendant quelques secondes, mais je vais vous lire quand même tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc l'Agence européenne des médicaments a déjà entamé son examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour une thérapie génique qui s'appelle l'Elevidis, qui vise à traiter la dystrophie musculaire de Duchenne. En s'appuyant, attention, c'est hyper important, en s'appuyant sur les données de l'étude de phase 3 de Embark. Voilà, vous savez tout. Ensuite, ils ont eu l'homologation d'une version sous-cutanée du traitement contre la sclérose en plaques, qui est l'Ocrevus, qui a été autorisée. Zéro impact sur le titre. Ils ont obtenu la recommandation du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments pour l'approbation du Plaski dans le traitement d'une maladie sanguine rare, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Oui, ils ont reçu aussi l'approbation pour l'extension du Vabysmo, traitement de la déficience visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à l'occlusion de la veine rétinienne. Voilà, donc ça c'est rush, petite semaine, hein. Donc plein d'approbation, que des nouvelles positives, et le titre termine en baisse. Comme quoi, voilà, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles en série sur rush, et le marché s'en fout complètement, parce qu'on est simplement dans un environnement de marché global qui a des conséquences sur les indices, et les indices, à l'intérieur, il est constitué d'actions, et si les nouvelles sont pas énormes, du style « nous sommes roche, nous commençons à faire de l'intelligence artificielle », eh bien les titres n'arrivent pas à démarrer. Donc que des bonnes nouvelles du côté de chez roche, zéro impact sur le titre. Vous voyez le titre, le bon roche donc sur la semaine, hein, ça se passe de commentaires, on est toujours dans notre configuration de biseau qui continue à monter, hein, donc on a un target sur le bon roche à court terme à 264 francs, on a tenté 255 en début de semaine, mais rien à faire, on termine à 249. Voilà, que des bonnes nouvelles, mais pas d'impact et pas de réaction réelle sur le titre. Deuxième vedette de la semaine, alors je vous l'ai mis parce que, alors pour être très franc, je savais même pas que c'était coté en bourse, je connaissais même pas la société, mais je vous le mets quand même, parce que c'est juste pour mettre en perspective les montants dont on parle et l'argent dont on parle, et ce que ça peut avoir comme impact sur une société. Vous avez des Nvidia où on parle de centaines de milliards, et là vous avez Schlatter Industries en Suisse, qui a baissé de 6% dans le courant de la semaine, parce qu'ils ont annoncé des résultats d'exploitation sur le premier semestre qui seront nettement inférieurs à ceux de l'année précédente, parce qu'ils ont fait, tenez-vous bien, une provision de 1 million de francs suisses, pour des pénalités potentielles liées à des retards dans la mise en service des systèmes de production de treillis métalliques renforcés. Alors, vous avez des gars à l'autre bout de l'Atlantique qui vous sortent des théories sur l'intelligence artificielle qui vont nous reconstruire Skynet et faire arriver les Terminators sur la planète. Et puis nous, bah, on a en Suisse Schlatter Industries qui fait un profit warning parce qu'il fait une prévision de 1 million de francs suisses pour des histoires de treillis métalliques. Voilà, bah, deux salles, deux ambiances en gros. Mais voilà, c'est la petite histoire de la semaine. Schlatter a sorti une prévision et des mauvais résultats. Je vous montre le graphique juste pour... la bonne bouche, hein. Voilà. Ça, c'est le graphique de Schlatter Industries. Alors, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas bien les graphiques, quand vous avez un graphique où vous avez des candlesticks comme ça, très allongés, avec des journées où le candlestick se résume à un point, enfin, un trait plutôt horizontal, on va zoomer encore un petit peu pour que vous voyez très bien de quoi je vous parle. Vous voyez, c'est très horizontal. Là, tong, 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 c'est trois petits traits à suite. C'est des journées où le titre a ouvert à 27. Il a payé 27 et il a clôturé à 27. Donc, trois jours de suite, vous avez le titre qui fait les mêmes variations. Donc, il ne se passe rien. Donc, en général, quand vous voyez des titres comme ça, vous touchez pas. Vous touchez pas parce que vous savez très clairement qu'il ne se passe rien et que potentiellement, si tout d'un coup, il y a une nouvelle... comme cette semaine, vous avez le titre qui décroche tout d'un coup, qui passe de 26 à 25. Donc là, c'est juste parce que vous avez des mecs qui ont vendu 5 actions qui n'étaient pas contents. Donc, il faut faire attention à ce genre de configuration. Et j'en profite pour toujours expliquer, pour remettre au goût du jour une citation que j'ai appris quand j'ai commencé dans la finance. Quand vous rentrez dans n'importe quel produit financier, quand vous achetez n'importe quoi, une action, un produit structuré, un call, un put, n'importe quoi, il faut toujours être sûr qu'il y a la liquidité, le volume et suffisamment d'activité pour pouvoir rentrer et sortir. Parce que si vous achetez un truc comme ça, comme Schlatter Industries, où vous avez zéro volume et pendant des jours, le titre est capable de ne rien faire, il y a zéro échange, eh bien, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en anglais une cockroach house, une maison à cafards. Et en anglais, on dit « you get in, but you never get out ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans la maison à cafard et vous ne pouvez jamais en ressortir. C'est comme une nasse à poisson. Donc, évitez ce genre de boîte où vous voyez qu'il n'y a aucun volume. Évitez ce genre de produit où les risques sont trop élevés de ne pas pouvoir ressortir. Parce que acheter un titre, prendre une tôle derrière parce que vous étiez faux dans votre réflexion, c'est une chose. Mais acheter quelque chose et ne pas pouvoir ressortir de la gonfle dans laquelle vous êtes, ça, c'est pire que tout. Richemont, Richemont, notre ami Richemont, le luxe, c'était du Conti. Alors, c'est assez intéressant parce que Richemont a quand même bien démarré la semaine. Alors, la raison de cette forte hausse en début de semaine sur Richemont, c'est des rumeurs comme quoi monsieur Bernard Arnault serait en train de prendre une participation dans Richemont et la baisse des trois derniers jours, c'est qu'en fait, il ne l'a pas confirmé, semble-t-il, jusqu'à l'heure actuelle. Donc voilà, Richemont, des rumeurs de prise de participation de LVMH à l'intérieur. Ça, c'est l'UBS qui a vécu une semaine relativement pourrie. Pourtant, ils ont quand même annoncé qu'ils vendaient une partie de la division Crédit Suisse Equities en Chine à une banque d'État chinoise et ça va leur rapporter 91,5 millions. Mais l'un dans l'autre, eh bien, ça n'a pas vraiment eu d'impact. D'un point de vue purement technique, moi, j'ai quand même une petite crainte avec toutes ces histoires d'instabilité, de taux, etc., que finalement, l'UBS ait quand même besoin d'aller chercher le comblage de ce comblage, je sais pas si c'est très français comme truc, mais le comblage de ce gap à 25 balles, et que pour l'instant, elle a de la peine à redémarrer tant qu'elle a pas nettoyé un peu tout ça. Le patron de Kühne+Nagel a parlé cette semaine, et il a dit qu'il voyait clairement de gros signes de reprise dans le trafic maritime, hyper positif, donc il a fait des commentaires assez enthousiastes sur l'avenir, expliquant que le business repartait et que tout allait très bien dans le meilleur des mondes. C'est vrai aussi que le business maritime a vu une augmentation des tarifs ces derniers temps. Il y a de moins en c'est de plus en plus difficile de trouver finalement des conteneurs. On voit régulièrement ce genre de choses. Ça a aussi un impact, il ne faudra pas l'oublier, sur le PPI et sur les CPI, puisque ça vraiment, si vous payez plus cher les transports, les marges diminuent, donc il faut bien récupérer quelque part. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire attention, il faudra surveiller. Mais néanmoins, ça, c'était une bonne nouvelle pour Kühne+Nagel. Kühne+Nagel qui a vécu une relativement bonne semaine, relativement bien sûr, parce que FedEx également a publié des très très bons chiffres, vous l'avez vu, hein, FedEx qui a annoncé que son business fonctionnait bien, et en même temps, ils faisaient un gros cost-cutting ces prochains temps, donc ils vont virer plein de monde, et donc ça a plutôt profité à Kühne+Nagel, qui indirectement, par capillarité, profite du bon comportement de ces méga boîtes d'import-export dans le monde. Quand vous regardez le graphique de Kühne+Nagel, alors oui, commentaire enthousiaste, oui, FedEx, super bon chiffre, mais bon, Kühne+Nagel reste coincé quand même entre 253 et 257, donc c'est pas le truc le plus fun en ce moment. Néanmoins, on voit 2-3 signes d'amélioration. Donc quand le marché sera disposé à vouloir repartir sur une logique un peu plus long terme, peut-être qu'on pourra envisager de casser cette moyenne mobile des 200 jours qu'on a là derrière, en blanc là, et puis peut-être repartir un petit peu à la hausse, aller chercher notre gap là en direction des 287-288. Mais ce qui est un petit peu décevant, c'est que vu l'ambiance aujourd'hui et vu les bonnes nouvelles, eh bien on a zéro réaction parce que, comme je vous le disais un peu en début de commentaire, eh bien on a des marchés qui sont très concentrés sur le global et sur la macroéconomie en général plutôt que la micro en particulier. Au niveau des chiffres qu'il faudra surveiller durant les jours à venir, donc on aura le PMI manufacturier en Chine à surveiller dimanche, on attend à 49,5, on aura également le CPI allemand lundi matin à surveiller, on aura ensuite les ISM, vous avez un wagon d'ISM aux États-Unis qui seront intéressants au niveau de l'économie, Madame Lagarde qui parlera lundi, mardi on aura le CPI en Europe et puis le taux de chômage en Europe également avec un discours de Monsieur Powell et de Madame Lagarde. Les jobs qui seront aussi là, ça sera intéressant à voir au niveau de l'emploi, ce sera la grosse semaine de l'emploi, puisqu'on attaque un nouveau mois et un nouveau semestre, bien sûr. Et puis, les PMI qui vont venir ensuite en Europe, les jobless claims jeudi, le trade balance aux USA, les ISM non-manufacturing cette fois aux USA encore. Madame Lagarde qui reparlera, elle parle pratiquement tous les jours la semaine prochaine. Jeudi 4 juillet, bien les Américains, bien sûr, seront fermés parce que c'est le 4 juillet. Independence Day, tout ça, machin et consort. Et puis ensuite, on a en fin de semaine, vendredi, bien sûr, les non-farm payrolls. Non-farm payrolls qui sont très, très importants, bien sûr. Donc on attend 180 000 créations d'emplois pour le mois de juin. Et donc là aussi, on va en tirer les conséquences par rapport à notre fameuse baisse des taux attendue aux États-Unis. Voilà ce que l'on pouvait raconter sur cette semaine. Grosse semaine, hein, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, c'est peut-être moi qui me suis un peu étalé, que j'ai trop parlé. Mais enfin, voilà, grosse semaine, pas mal d'interrogations toujours bien présentes dans la tête des intervenants et des investisseurs. On espère qu'on aura un peu plus de réponses, mais je vous avoue, on est toujours extrêmement court-termiste. On démarre un nouveau semestre. On va de nouveau faire le plan sur le point sur l'économie et sur l'emploi encore cette semaine. Comme je vous l'ai dit, grosse semaine sur l'emploi. On espère qu'on y verra un peu plus clair. Mais moi, en l'occurrence, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est tout d'abord vous souhaiter un excellent week-end. Attention, parce que ce soir, il y a un match de foot Suisse-Italie, et en plus, des gros orages qui sont annoncés. Passez quand même un bon week-end néanmoins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français si ce n'est pas déjà fait. Et puis de liker cette vidéo, de la partager. Et puis moi, comme d'habitude, lundi matin, même heure, même endroit. Très belle journée à vous tous, et à lundi. Bye bye.